L'écriture de ses mémoires, ai-je entendu dire, oblige à se mettre dans la peau d'un orphelin. Le manque qui nous habite, les choses qui suscitent en nous prudence et hésitation, remontent à la surface de façon presque fortuite. Un livre de mémoire, c'est l'héritage perdu, comprend-on. Au cours de cette période, on doit donc déterminer où et comment regarder. Dans l'autoportrait qui en résultera, tout va rimer dans la mesure où tout a été réfléchi. À l'adolescence, nous sommes tous bêtes. Nous disons ce qu'il ne faut pas, ignorons comment nous montrer modestes ou un peu moins timides. Nous sommes prompts à juger. Le seul espoir qui nous est donné, bien que seulement a posteriori, est que nous changeons. Nous apprenons, nous évoluons. La personne que je suis aujourd'hui a été façonnée non par ce que j'ai accompli, mais bien par ce qui m'est arrivé, par le chemin que j'ai emprunté pour me trouver ici. Qui ai-je blessé pour parvenir à mes fins? Qui m'a guidé vers une meilleure destinée? Qui a accepté mes maigres talents? Qui m'a appris à rire en mentant? Et qui m'a fait douter de ce que je croyais savoir? Qui m'a fait passer d'un simple intérêt pour les personnages aux effets qu'ils ont sur les autres? Mais surtout, par-dessus tout, combien de torts ai-je causé?
L'humeur vagabonde sur France Inter.
En 1945, à Londres, où les séquelles de la guerre aérienne et le rationnement pèsent encore sur la vie quotidienne, Nathanaël, 14 ans, et Rachel, 16 ans, se retrouvent confiés, suite au départ inopiné de leurs parents pour Singapour, à deux hommes étranges, peut-être bien des criminels, en tout cas des gens vivant en dehors des lois et qui vont entraîner les deux adolescents dans un monde trouble de paris clandestins, de marchés noirs et de fréquentations inquiétantes. Bien des années plus tard, devenu adulte et ayant intégré le Foreign Office, Nathanaël tentera de découvrir qui était sa mère, sans doute un agent secret, et quels étaient ses liens avec ces gens qui les ont protégés en son absence. Ombre sur la Tamise, traduit par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, est le dernier roman de Michael Ondaatje qui vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Comme dans ses précédents livres, Le patient anglais, Le fantôme d'Anil ou La table des hôtes, la narration se situe dans un temps flou et tiré entre passé et futur, où la mémoire doit inventer pour tenter de combler les manques, où devenir adulte signifie apprendre à pardonner et avoir l'histoire que l'on croit avoir vécue avec un autre regard et d'un autre point de vue. Commencé comme un conte enfantin, poursuivi comme un roman noir, Ombre sur la Tamise est une lumineuse réflexion sur ce qui nous constitue et surtout, surtout, un livre magnifique. Bonsoir Michael Ondaatje.
Bonjour.
Comme dans le livre précédent pour lequel vous étiez venu nous voir, Cat's Table, la narration d'Ombre sur la Tamise se fait à partir d'un point de vue d'un adulte, mais qui, pour raconter l'histoire, doit se remettre dans l'état d'esprit de l'enfant qu'il a été. Je sais que vous aimez beaucoup la citation de Robert Frost qui dit que l'écriture est le dernier stade de l'enfance. Je me demande si pour vous, cette place-là est la seule place possible pour écrire un roman. Est-ce que c'est une place confortable ?
That's interesting. I hadn't really thought about this being a consistent thing, except that.
C'est une question intéressante. En réalité, je n'y avais pas vraiment réfléchi. Dans Cat's Table et dans Les Ombres de la Tamise, c'est vrai que le narrateur est à la fois adulte, alors que la première partie de l'histoire, il la raconte en tant qu'adolescent. Est-ce que c'est le seul point de départ ou le seul point où on peut écrire? Mais en tout cas, c'est là que je reviens. Moi, quand je commence un roman, je n'ai pas de grand projet, je n'ai pas de grand dessin dans mon esprit. Je travaille plus particulièrement en découvrant ce qui va se passer. Et cette découverte, je la mène à rebours. Donc je remonte dans les sources de l'enfance.
En même temps, Michael Ondaatje, on est obligé, quand on a lu beaucoup de vos livres, de remarquer des constantes. Souvent, le narrateur est un enfant qui cherche ses parents, ou parce qu'il les a perdus, qu'il est véritablement orphelin, ou parce qu'il a été abandonné, ou parce qu'il y a eu une rupture. comme si, pour raconter, il fallait passer par-dessus cette blessure terrible qui coupe le monde des enfants du monde des adultes. Est-ce que pour vous, c'est une constante importante dans votre monde?
I don't think so. I don't think I was very conscious of that being a repeat.
À vrai dire, cette répétition que vous citez, moi, je n'en suis pas conscient. Comme je l'ai dit, le livre est pour moi un mystère, et les choses vont évoluer au fil de la plume. Et je ne sais pas que le papillon de nuit, le dard, ou la mère, ou les autres personnages réapparaissent. Moi, je commence par une petite image, l'image de l'infirmière qui parle au patient, dans le patient anglais. Ça, c'était mon image initiale, et avec la disparition des parents dans les zones de la mise. Donc, les choses évoluent naturellement de l'âge de l'adolescence vers l'âge adulte, et c'est vrai que les parents ne sont pas là. Ça, c'est une constante.
La première phrase de votre livre, Ombre sur la Tamise, Michael Ondaatje, c'est celle-ci. En 1945, nos parents partirent en nous laissant aux soins de deux hommes qui étaient peut-être des criminels. C'est une formidable phrase de départ. Est-ce que c'est à partir de là réellement que vous avez déroulé votre histoire? Est-ce que vous vous êtes laissé entraîner par le monde incroyable qui s'ouvre avec cette phrase? Ou est-ce qu'au contraire, elle est venue ensuite quand vous avez eu quelque chose qui ressemblait à un livre?
À vrai dire, cette phrase m'est venue assez tôt, pas au tout début. C'est vers la deuxième ou troisième page, je me suis dit, oula, attends, je vais revenir en arrière. Et je vais commencer par cette phrase-là. Parce que c'est une ouverture à la D.H. Lawrence, hein, un peu. Donc c'était formidable pour moi de faire ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et donc ça ouvre les choses. Et puis en effet, ça promet beaucoup de choses. Féerique, sombre, ou autre. Mais en même temps, il s'agit d'abandon. Et de façon surprenante, je suis passé de là assez rapidement vers l'aventure. Les enfants étaient abandonnés, certes, mais le propos, c'est une aventure incroyable, et c'est là que je me suis lancé.
Michael Ondaatje, le narrateur, c'est Nathanaël, devenu adulte, qui se remémore toute cette période de la fin de l'enfance et du début de l'adolescence, cette période où il était un orphelin en quête de nouveaux parents. Parce que ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que les enfants semblent considérer que le départ de leurs parents est maintenant une chose acquise. Ils n'ont pas d'explication. Le père, la mère ont disparu. Et de nouveaux pères et de nouvelles mères se présentent sous leurs yeux. Ils en trouvent une, notamment. Elle s'appelle Olive. C'est une ethnologue, ethnographe, géographe. Et elle leur apprend beaucoup de choses que leurs propres mères n'ont pas appris à ses enfants.
Un soir, Olive Lawrence insista pour que nous prenions avec elle l'autobus jusqu'à Streatham Common et que nous gravissions le léger dénivelé qui menait au Rookery. Elle nous fit avancer jusqu'à ce que les arbres nous encerclent et que la ville s'évapore derrière nous. Tout autour résonnaient des bruits intraduisibles. Quelques créatures en fuite, une série de pas. J'entendais la respiration de Rachel, mais Olive Lawrence était complètement silencieuse. Puis, dans le noir, elle se mit à parler, déchiffra pour nous des sons à peine audibles. C'est une soirée douce, et ses grillons grésillent en raie. Leurs stridulations sont jolies et délicates, mais elles résultent du frottement de leurs élytres, non de leur respiration. Et la grande conversation que nous entendons signifie qu'il va pleuvoir. D'où l'obscurité. Les nuages nous dissimulent la lune. Écoutez, nous vîmes sa main pâle montrer quelque chose près de nous, sur la gauche. Ce grattement, c'est celui d'un blaireau. Il ne creuse pas, ses pattes bougent, rien de plus. C'est très tendre, je vous assure. La fin d'un rêve horrible, peut-être. Les vestiges d'un petit cauchemar mouvementé. Nous faisons tous des cauchemars. Mais il ne sert à rien d'avoir peur quand on rêve. De la même façon qu'on ne se fait pas mouiller par la pluie sous le couvert des arbres. La foudre frappe rarement en cette saison. Nous ne risquons donc rien. Marchons. Les grillons vont peut-être nous accompagner. Les branches et les arbustes en regorgent plein de dos et de raies. ils montent jusqu'à Fa vers la fin de l'été, au moment où ils pondent leurs œufs. Leur chant semble retomber sur nous, n'est-ce pas? On dirait qu'il s'agit pour eux d'une nuit capitale. N'oubliez jamais, votre histoire n'est qu'une histoire parmi d'autres, pas nécessairement la plus importante. Le moi n'est pas ce qui compte le plus. Sa voix était la plus calme que j'ai connue du temps de ma jeunesse. Jamais querelleuse. Elle possédait une curiosité tactile pour tout ce qui la passionnait. Un calme qui vous permettait d'entrer dans son espace intime. En plein jour, elle cherchait toujours à croiser votre regard. Quand elle parlait ou écoutait, elle était entièrement avec vous. Comme en cette nuit-là, par exemple. Elle voulait que nous nous en souvenions, et je m'en souviens.
Michael Ondaatje, ce qui est fascinant à voir, à suivre au fil des premières pages de votre livre, c'est de voir à quel point ces deux adolescents, Nathanaël et Rachel, qui ont vécu jusque-là dans une structure familiale tout à fait ordinaire, un père, une mère qui vont au travail, des règles strictes, l'école, vont en quelques jours se métamorphoser au contact de personnes qui ne leur sont pas parentes, mais qui vont leur apprendre d'autres manières de vivre, comme une sorte d'initiation. En fait, ils étaient civilisés avant, ils deviennent des petits sauvages, alors qu'ordinairement, la vie vous apprend l'inverse. On commence par être un peu sauvage et on apprend la civilisation. Est-ce que c'était amusant pour vous de bouleverser à ce point les règles d'éducation et qu'est-ce que vous voulez nous raconter par là ?
Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir.
Un
des grands plaisirs, c'était la découverte de ce personnage d'Olive Lawrence. Je ne savais pas qui elle allait être. Et puis, ce moment est arrivé dans le récit. Elle est courageuse, elle prend la vie à pleines dents. C'est un personnage formidable, j'ai beaucoup aimé. Grâce à elle, les enfants ont quelqu'un qui s'accrochait et peuvent évoluer. Mais comme vous l'avez dit, j'ai pris les choses un petit peu à l'envers. Le côté aventureux prend le dessus.
C'est toujours formidable, Michael Ondaatje, de vous écouter dire « ce personnage m'a séduit, j'ai été très étonnée de le découvrir ». C'est formidable parce qu'en fait, on croit toujours quand on est lecteur que l'écrivain a un plan en tête, ses personnages, et vous, vous êtes là et on a l'impression qu'à partir d'un détail qui vient sous votre plume, tout d'un coup, les personnages prennent vie et qu'au fond, vous leur donnez la voix, mais vous les accompagnez comme un spectateur. C'est très étonnant pour nous d'entendre ça.
Yes, I think the sense I got, I mean, in retrospect, is that all those things were already there.
Rétrospectivement, je me suis rendu compte que les choses étaient déjà en place dans mon esprit, mais de manière floue. Donc, si je m'étais éloigné d'Olive Lawrence trop longtemps, j'aurais manqué ce pan important de l'histoire. À vrai dire, je ne fais pas trop de plans. Je ne fais pas de plans du tout, à vrai dire. Mais les choses peuvent survenir. Il va y avoir, par exemple, un bois. Dans ce bois, il y a une maison vide. Le personnage va y rentrer, bien sûr. Mais les sauts émotionnels ou les sauts narratifs semblent accidentels. Il y a une scène où Nathanaël est avec Agnès, et il y a le dard, et elle dit « c'est mon père ». Quand j'ai écrit cette scène, j'étais le premier surpris. Hein. Et pourtant, c'est l'ouverture vers le dernier aspect du livre. Donc, je fais confiance au risque. Voilà.
Vous nous dépeignez, Michael Ondaatje, un Londres de 1945, donc juste après la fin de la guerre. Vous, vous êtes arrivé quelques années plus tard, c'était en 54. Quand vous êtes arrivé jeune enfant, vous aviez 11 ans, je crois, est-ce que ça vous avez été frappé par l'aspect qui devait encore être très sombre avec des destructions de la capitale anglaise? Est-ce que c'était un souvenir dont vous vous êtes servi pour nous décrire cette ville qui est encore très dans le noir, dans lequel se promènent la nuit des gens inquiétants? Est-ce que c'était pour vous restituer quelque chose qui vous avait frappé enfant?
Pas tellement, parce que moi je suis arrivé en 1954 à Londres, donc il s'était écoulé tout de même près d'une dizaine d'années de paix à Londres. Il restait un tout petit peu de rationnement à l'époque, mais il a fallu tout de même que je fasse preuve d'imagination pour revenir 10 ans avant mon arrivée à Londres. J'ai dû me documenter pour savoir comment était la vie à Londres en 1945. Et c'est vrai que les fenêtres étaient cassées. Il y avait de l'obscurité, c'était une ville très sombre à bien des égards. Et il y a beaucoup de textes formidables qui ont été écrits sur Londres en particulier et l'Angleterre en général, juste après la guerre. Je me suis beaucoup documenté, mais en fait c'était une sorte de mélange. Moi, adolescent, dans les années 50 en Angleterre, et là je rejoignais l'adolescent que j'aurais pu être ou que quelqu'un d'autre aurait pu être au lendemain de la guerre.
D'ailleurs, ces adolescents qui vont être livrés à une autre forme d'éducation que celle que leur avaient donnée leurs parents, ils vont découvrir la vie en accéléré parce que Nathanael va commencer à travailler la nuit dans un hôtel qui s'appelle Criterion et dans lequel, que j'avais déjà lu sous votre plume dans le livre précédent, Cat's Table, dans laquelle la mère du narrateur travaillait à l'hôtel Criterion, qui a existé donc à Londres. Là, on sent que vous avez quand même des petites pierres blanches sur votre chemin qui reviennent.
Oui, moi-même j'ai travaillé dans cet hôtel, c'est pour ça. Et ma mère aussi.
Donc,
il y a des éléments d'autobiographie dans un livre, c'est une platitude que de le dire, mais d'un autre côté, c'est ce qui évoque les souvenirs. Les lévriers, non, mais l'hôtel, oui.
Thank you.
vagabonde sur France Inter.
Michael Ondaatje, le titre original d'Ombre sur la Tamise, c'est Warlight. Warlight, ça veut dire la lumière de la guerre. Comme pour le patient anglais, d'ailleurs, et pour d'autres de votre livre, vous écrivez dans des temps où la guerre porte encore une ombre sur les hommes et les femmes dont vous racontez l'histoire. Vous avez le sentiment qu'au fond, dans le monde, les guerres ne s'arrêtent jamais, même lorsqu'officiellement elles sont terminées.
I think this book is more of a domestic version of war.
Il y a la version domestique de la guerre aussi, qui est peut-être plus brutale et plus violente. Aujourd'hui, le terrorisme, le conflit, la guerre frappent de façon réelle ou potentielle tous les pays.
Moi,
j'ai grandi à une époque où subsistait la propagande de la guerre, où il y avait des films sur la guerre qui venaient de s'écouler. Et donc j'ai appris la réalité de la guerre de cette façon-là. Donc la guerre est centrale dans mon récit personnel. Je ne parle pas simplement de la guerre avec l'Allemagne, mais la guerre au Sri Lanka aussi, dans les années 80. Donc c'est conflits-là sont très présents dans mon esprit.
Et d'ailleurs, Nathanaël, qui va explorer la vie de sa mère, Rose, celle qui les a abandonnés, pense-t-il, va pour retrouver le parcours supposé de sa mère pendant la guerre. Il va utiliser des cartes vraies et des cartes fausses. Est-ce que vous avez cette passion des cartes que l'on pourrait croire, d'ailleurs, puisque vous avez choisi de mettre une phrase avant le démarrage de votre livre? La plupart des grandes batailles se livrent dans les plis des cartes topographiques. Est-ce que vous avez la passion de ces cartes-là, Michael Ondaatje?
I love maps. I would love to be a map maker.
J'adore les cartes. Je voudrais faire des cartes. Une chose formidable que j'ai découverte, c'était que dans le passé, il y avait des cartographes qui conseillaient les peintres. Et il y a des personnages qui s'intéressent aux cartes des batailles avec des archives à Versailles. Tout ça, ça me fascine. J'ai vu une carte fantastique du Mississippi et les méandres de ce fleuve. Une carte absolument formidable. C'était un tableau du XXe siècle. Tous les méandres du Mississippi représenté par des couleurs différentes. Oui, j'ai une passion inextinguible pour les cartes.
Alors ce livre qui commence comme un conte pour enfants qui ont peur la nuit se poursuit très rapidement comme un roman noir, un roman à la John le Carré, puisque la mère de ces deux enfants abandonnés est en fait une femme qui va là où son gouvernement décide de l'envoyer. C'est une espionne ou un agent secret, en tout cas une femme engagée, dont Nathanaël va faire ensuite, pendant des années, le portrait que vous racontez, Michael Ondaatje. C'est un magnifique portrait de femme.
Je mis donc longtemps à apprivoiser le passé et à reconstruire des repères qui me permettent de l'interpréter. Les souvenirs que je gardais de la conduite des uns et des autres manquaient de cohérence. J'avais passé le plus clair de ma jeunesse en équilibre précaire, luttant pour me maintenir à flot. Jusqu'au jour où Rose Williams, vers la fin de mon adolescence, s'installa dans une serre et, dans sa chaleur artificielle, disputa d'impitoyables parties d'échecs avec son fils, le seul de ses deux enfants qui accepta de vivre avec elle. Parfois, elle portait une robe de chambre qui laissait voir son cou fragile. Parfois, son cardigan bleu. Elle y enfonçait le visage et je ne discernais que ses yeux méfiants, ses cheveux fauves. La défense, c'est l'attaque, répétait-elle souvent. La première chose que doit apprendre un bon chef militaire, c'est l'art du repli. Savoir quand intervenir et quand se retirer indemne. Après mes premières leçons, nous commençâmes à jouer. Elle me battait sans pitié, puis elle replaçait les pièces qui avaient causé ma perte pour me montrer comment j'aurais pu éviter les pièges. Un soir que nous étions attablés l'un en face de l'autre dans la serre, un orage se percha au sommet de notre vallée. Pendant que la tempête s'abattait sur nous, ma mère posa les pions et les tours sur l'échiquier. Face à la foudre et au tonnerre, nous étions sans défense dans notre mince coquille de verre. Dehors, c'était comme l'opéra de Bellini. Dedans, il y avait l'odeur enivrante des plantes et deux radiateurs électriques qui tentaient de nous réchauffer. Nous déplacions nos pièces dans la faible et constante lueur jaune de la lampe au sodium. Je me défendais bien malgré les distractions. Vêtue de son cardigan bleu, ma mère fumait en jetant à peine un regard vers moi. « Concentre-toi », avait-elle chuchoté, tandis que nous nous installions au milieu des tirs d'artillerie et des flammes de l'orage pour un autre de nos petits bras de fer. Dans le jaillissement d'un éclair, je la vis s'égarer dans une mauvaise tranchée de notre guerre. Un coup évident s'offrait à moi, mais aussi un autre, peut-être mauvais, peut-être bien meilleur. Je le jouais aussitôt et elle comprit. Le vacarme ne faiblissait pas, mais nous nous contentions désormais de l'écouter. La foudre inonda la serre de lumière et je devinais sur son visage... Quoi ? La surprise ? Une sorte de joie ? Une mère et son fils, enfin.
Michael Ondaatje, alors que Rachel, la fille aînée de Rose, ne lui pardonne pas cet abandon et disparaît, Nathanaël, il ne se pose pas la question du pardon, il se pose la question de comprendre, comprendre sa mère. Il a cet avantage, ce talent, cette bonté d'âme de vouloir raconter son histoire en se plaçant d'un autre point de vue, en se disant que peut-être son point de vue à lui n'est pas forcément le meilleur. Est-ce que c'est ça aussi la philosophie de votre récit ? C'est une histoire, au fond, peut toujours être racontée de plusieurs points de vue différents.
J'ai une prédilection pour l'art du collage. C'est un genre formidable que de faire entrer en collision des éléments disparates pour en produire quelque chose de très beau. Le soie et le papier, la pierre mélangées, c'est formidable. Mais une histoire ne sera jamais racontée d'un seul point de vue. C'est une affirmation politique, mais c'est une affirmation d'ordre artistique aussi. Il y a en effet des histoires innombrables. Donc ici, la partie d'échecs, c'était pour moi l'occasion de montrer qu'il y avait presque de l'affection, presque de la compassion entre la mère et son fils, mais pas tout à fait tout de même. Il y a une certaine pudeur de la part de la mère, en tout cas, et elle n'arrive pas à surmonter cela.
En même temps, la description que vous faites des relations entre le fils devenu adulte et la mère, qui n'a plus que quelques temps à vivre, est assez déchirante, parce qu'au fond, il finit par dire « Je ne crois pas qu'elle tenait spécialement à ce que je l'aime, et puis plus loin, je ne pense pas que je l'intéressais. » Et au fond, Nathanaël est en train de comprendre que l'amour de cette mère pour ses enfants n'était pas du tout un amour traditionnel, bienveillant, mère poule, c'était un amour d'une femme libre. Et au fond, ce que vous racontez là, c'est que l'amour maternel, il a plus d'une manière de s'exprimer, et que probablement pour grandir en paix, pour devenir adulte, il faut savoir pardonner à ses parents de ne pas nous avoir aimés de manière conventionnelle.
I think so. I hope I was...
Oui, j'espère que j'avais cela à l'esprit quand j'écrivais notamment ce passage. En tant qu'écrivain, de manière subliminale, c'est vrai que c'est peut-être ce que je fais, mais sans encore en être parfaitement conscience. Alors, c'est vrai que cette mère, elle, a un passé, elle a des bagages assez lourds à porter, mais je crois que c'est une très belle façon que vous employez pour décrire cette relation. Alors que Rachel, la fille, elle adopte un point de vue, une position radicalement différente.
Vous plongez votre personnage de Rose, la mère, Michael Ondaatje, dans un temps troublé qui se situe, on le comprend, en Italie, entre 43 et 47, dans cette partie contestée qu'était la Dalmatie ou l'Istrie, où il y a eu des massacres de populations locales, mais des massacres faits par tout le monde sur tout le monde, et dans lequel des services secrets américains et anglais ont joué aussi un rôle. Est-ce que vous vous êtes aussi documenté sur cette période qu'on appelle les massacres des Foibes, je crois, en Italie?
Yes, I did.
Oui, ça m'a demandé beaucoup de recherches, de travail de documentation à partir de différentes archives de textes, de magazines. Qui a écrit le Danube? Je ne me souviens pas de son nom.
Claudio Magris.
Très intéressant récit sur ce sujet. Il a beaucoup écrit. Il parle des tombes que l'on retrouve. Mais il y a énormément d'informations, beaucoup d'archives ont été brûlées vers la fin de la guerre. Mais tout cela, c'est très intéressant. Donc, je ne voulais pas non plus que mon ouvrage devienne un livre d'histoire. C'est encore une fois, c'est un roman, mais je me suis beaucoup documenté. Le plaisir de l'écriture, pour moi, c'est aussi le plaisir de la découverte. Et la découverte, évidemment, résulte du travail de documentation, de recherche que l'on fait. Je découvre des choses étonnantes. Dans ce livre, à un moment, Agnès plonge dans un bassin. C'est une scène très lyrique. Et par la suite, lorsque j'ai découvert ce qu'était ce bassin dans la rivière, c'est là que l'on faisait des explosions sous l'eau. Donc, du lyrique, vous voyez, on passe à quelque chose de beaucoup plus tragique.
Et puis, je le disais tout à l'heure, il y a dans ce livre aussi une atmosphère à la John le Carré, et notamment un autre portrait magnifique qui est le portrait du recruteur de Rose, l'agent secret en chef, qui va utiliser sa profonde connaissance des insectes, de la flore, de la faune, du Suffolk, pour rassembler une équipe de jeunes gens qu'il aura connus, lui aussi, dans ces années-là.
Enfant, Marsh Fellon accueillait les lézards entre ses doigts, soulevait des grillons posés sur sa paume et les relâchait dans les airs. Il avait grandi dans un univers familier et bénin. À la radio, il se montrait tel qu'il avait sans doute voulu être, un passionné du monde naturel, dans lequel il s'immergeait à la première occasion. Il est désormais un agent secret qui occupe un poste sans nom au sein d'un bureau gouvernemental et qui se rend dans des zones instables de l'Europe, ce qui explique pourquoi le récit de sa vie omet quelques étapes. Certains affirment que Fellon doit ses talents dans le monde du renseignement à sa connaissance du comportement animal. Mais comment est-il devenu celui qu'il est devenu, ce jeune campagnard curieux du monde lointain? Comment s'est-il hissé jusqu'à l'aristocratie guerrière? À 12 ans, il savait lancer un appât et le poser impeccablement sur la surface d'une rivière, puis le projeter à contre-courant et le laisser dériver jusqu'à l'endroit où rôdaient les truites. À 16 ans, il transformait ses griffonnages indéchiffrables en notes bien nettes sur la conception et la fabrication des mouches. Il devait rendre compte avec exactitude de sa passion, comment découper et coudre le camouflage des mouches sèches. Cette activité meublait le silence de ses journées. Il était alors capable de réaliser une mouche à ombre, les yeux bandés, même avec une fièvre carabinée, même par grand vent. Vers ses 25 ans, il avait appris par cœur la topographie des pays des Balkans et possédait une connaissance encyclopédique des cartes anciennes illustrant de distantes batailles. De loin en loin, il visitait ses vallées et ses champs innocents. Il apprenait de ceux qui lui claquaient la porte au nez tout autant de ceux qui le laissaient entrer. Soutirait patiemment des informations officieuses à des femmes semblables aux renards hésitants que, plus jeune, il avait brièvement et tendrement serrées contre lui. Le temps qu'un autre conflit menace l'Europe, il était devenu un recruteur et un répartiteur de jeunes femmes et hommes qu'il attirait dans les coulisses silencieuses de la politique et relâchait dans l'enfer de la nouvelle guerre. Et pourquoi ?
parce qu'il avait décelé en eux un léger penchant anarchique, un besoin d'indépendance. Un groupe auquel devait se joindre Rose Williams à l'insu de ses parents, la fille de ses voisins du Suffolk, ma mère.
Michael Andadjé, vous avez un talent formidable pour nous parler de personnages dont vous faites le portrait et qui deviennent instantanément des gens très familiers pour nous. On a envie de les connaître, vous en faites des personnages formidables, des personnages de romans. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de raconter un personnage pour lequel vous n'aviez pas de sympathie ?
C'est vrai que j'ai tendance à aimer tous mes personnages. C'est peut-être un problème d'ailleurs.
No, I mean I get caught up. I mean even he who has many problems. There's something about him working his way up from being a fisherman.
Alors ce personnage, un pêcheur qui dessine des choses et ainsi de suite. J'aurais pu le décrire davantage, je pense. Il a fallu que je me bride un petit peu. Il est devenu un peu comme Olive Lawrence. C'était un personnage qui menait une vie très pleine, très riche et tout, mais pas forcément à montrer sur scène. Peut-être qu'il fallait que l'entièreté de sa vie et cette richesse reste en coulisses.
Et pourtant, Michael Andadjé, il y a sûrement un personnage pour lequel vous n'avez pas de sympathie dans ce livre. La preuve, c'est qu'il disparaît dès la troisième ou quatrième page. C'est le père. Le père disparaît. Nous n'avons aucune explication et d'ailleurs, personne ne le regrette. Donc j'en ai déduit que vous ne l'aimiez guère.
Non, it's not that I didn't like him. I didn't.
C'est pas que je l'aimais pas. Mais en réalité, c'était une question de temps. J'avais pas suffisamment de temps. Je voulais pas consacrer trop de temps pour le faire revenir. Du reste, j'ai eu une discussion avec l'éditeur. L'éditeur m'a dit, mais où est-ce qu'il est passé, le père? Et est-ce que il va revenir? Mais on peut pas faire la vie entière de tous les personnages. Il faut quand même raconter une histoire. Sans cette intéressé à toutes les ramifications. Et la sœur, est-ce qu'elle peut revenir? Je me suis posé la question, mais bon, c'est un peu compliqué. Mais le père, je me suis dit, on peut très bien se passer de lui.
En tout cas, Michael Andadjé, c'était pas un reproche, parce que tous les autres personnages, on les accompagnerait bien volontiers encore sur des centaines et des centaines de pages. Tellement ce livre, Ombre sur l'atamisme, est un livre, je le redis, absolument magnifique. Il vient de paraître aux éditions de l'Olivier, dans une traduction signée par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. Et c'est un bonheur et de vous écouter et de le lire. Merci à vous. Merci. Et merci à Xavier Combes qui nous a permis, bien sûr, de nous entendre ce soir. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.